deux orphelines. Première partie. Chapitre 6. Tout change avec le temps. Tout se modifie et se transforme. Les habitudes, les opinions et les croyances. Le progrès le veut ainsi. Or, il y a environ un siècle, bien des choses qui sont aujourd'hui attaquées et combattues étaient alors considérées comme choses saintes auxquelles il ne fallait pas toucher. Les cérémonies religieuses étaient de ce nombre. À Paris comme en province, mais en province surtout, on célébrait les fêtes de l'Église catholique avec une régularité, une pompe des plus imposantes. Elles étaient attendues par les habitants des villes et des campagnes, non seulement comme une occasion de faire preuve de bon catholicisme, mais aussi de se réunir entre parents et amis. Une entre autres était considérée comme la plus grande et la plus sainte, la fête Dieu. C'était le jour des grandes processions, et partout dans les villes, dans les villages, les maisons, même les plus humbles, étaient tapissées de draps blancs ornés de bouquets et de couronnes. Les jardins étaient mis au pillage pour remplir les corbeilles des jeunes filles chargées de jeter des fleurs sur le passage du Saint-Sacrement et sur les marches des reposoirs. C'était le jour des premières communions. Les filles, tout en blanc et la tête voilée, les garçons, avec de grands cols rabattus sur les épaules, portant un cierge dans la main droite et un paroissien dans la main gauche. Enfin, c'était le jour où les grands-parents occupaient le haut bout de la table et récitaient le bénédicité après avoir demandé à Dieu de veiller sur leurs enfants et sur leurs récoltes. Après le repas de famille, commençaient les longues promenades dans les champs, dans les bois, et quand la nuit approchait, garçons et filles se prenaient par la main et se mettaient à danser sur les routes, sur les places, en chantant les joyeux refrains du pays. C'était la fête Dieu. Au premier coup de midi, toutes les cloches de la ville d'Évreux se mirent en branle. Toutes les fenêtres se garnissaient de curieuses aux figures souriantes. Ceux des habitants, qui n'avaient pas assisté à la messe ou qui n'avaient pu pénétrer dans les églises, se bousculaient, à qui mieux mieux, afin d'être bien placés pour voir passer la procession de leur paroisse, laquelle, naturellement, devait être la plus belle de la journée. Dès que le Suisse en livrée parut sur le porche, dont il frappait les dalles avec sa hallebarde pour annoncer la sortie de l'église, un silence profond se fit sur toute la ligne. Les voix des chantres et des enfants de chœur se faisaient seules entendre, accompagnées par les grognements plus ou moins harmonieux des serpents. Puis venaient les bannières, les représentants des congrégations du diocèse, les autorités, les communiants, les communiantes, le bedeau, les vicaires, les porteurs d'encensoirs, et enfin, sous un dais garni de fleurs et de franges dorées, le curé, portant le Saint-Sacrement et marchant d'un pas solennel au milieu de la foule silencieuse et agenouillée. Ce jour-là, il y avait foule autour d'un superbe reposoir placé à l'extrémité de la ville, presque dans la campagne, et adossé à la Sainte Enfance. On appelait ainsi une maison habitée par des religieuses qui avaient fondé une école gratuite pour les jeunes filles du quartier. Ces pieuses femmes donnaient à leurs élèves toute l'instruction qu'elles avaient reçue elles-mêmes. Elles s'appliquaient surtout à en faire d'habiles ouvrières capables de gagner leur vie honnêtement et de faire plus tard de bonnes épouses, de bonnes mères. Ma supérieure, qui était encore jeune, et disait-on de haute naissance, possédait une instruction remarquable, et de plus elle était excellente musicienne. Elle avait pris à tâche d'inspirer le goût du chant à ses chères fillettes. Voilà pourquoi l'affluence était si grande devant le reposoir de la Sainte Enfance, et quand, à l'arrivée de la procession, les jeunes filles en blanc entonnèrent l'hymne sacré, un frémissement de plaisir courut parmi les assistants. On se sentait ému, attendri par la douceur virginale de ces jeunes voix et surtout par celle de la petite artiste chargée de chanter les solis. « Je n'ai jamais rien entendu de plus charmant, » disait une vieille dame à son voisin. « Est-ce que vous connaissez cette jeune fille ?»« Oh oui, et tout le bourg la connaît aussi. C'est une des demoiselles Gérard. »« Ah, elle a une sœur ?»« La grande qui porte la bannière. Deux enfants qui sont adorés de tout le quartier. » Leur famille doit en être bien fière. Leur famille? Tenez, regardez cette brave femme qui est là-bas, debout, appuyée contre un arbre, et qui semble les dévorer des yeux. c'est leur mère, c'est toute leur famille. Michel, en effet, avait longtemps souhaité que ses deux petites filles fussent élevées chez les sœurs de la Sainte Enfance. « Ah, disait-il souvent à Thérèse, quand je verrai autour de leur taille la belle ceinture blanche que portent les jeunes élèves des bonnes sœurs, je serai bien heureux. » Et lorsque le pauvre homme disait cela, il ne se doutait pas que le jour où cette blanche ceinture serait enfin donnée à son Henriette et à sa Louise, leur mère porterait sur sa tête le voile de crêpe noire des veuves. Thérèse n'aurait pas survécu à l'être chéri qui venait de lui être enlevé si l'instinct de la maternité n'avait éveillé en elle le besoin, la volonté absolue de vivre. Le courage et la force se noient dans les larmes, se disait-elle. Essuie donc les tiennes, la source n'en sera pas tarie. Quand tu auras rempli tes devoirs de mère, tu les laisseras couler jusqu'à ce que Dieu te rappelle et te dise « Viens, pauvre femme, celui que tu pleures est près de moi. Il t'attend. » Pendant les années qui suivirent la mort de son mari, elle n'eut pas une minute de défaillance et jamais une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Pour elle, nul travail n'était trop rude, nulle privation trop grande, pourvu que ses enfants ne manquassent de rien. Elle s'appliquait à leur donner le goût du travail et à leur apprendre un métier qui pût les faire vivre honnêtement, sans avoir besoin de personne. Elle n'eut pas pour cela grand-peine à se donner. Les jeunes filles avaient compris de bonne heure qu'elles devaient aider leur mère et lui épargner autant que possible ces longues journées passées devant son métier à dentelle, car il était facile de s'apercevoir que les forces commençaient à lui faire défaut. En 10 ans, elle avait vieilli de 20 années. Ses belles couleurs d'autrefois étaient passées, et, le dimanche, quand Louise ou Henriette, pour la faire belle, passaient le peigne dans ses longs cheveux, elle se regardait en soupirant. Et la mère, qui devinait jusqu'à leur moindre pensée, ne manquait pas de dire « Je me fais vieille, mes enfants. »« Non, mère, tu es toujours la même, toujours aussi belle. » Ah, il fut un temps où j'aimais à me l'entendre dire. Mais maintenant, je ne tiens plus à plaire. C'est à vous, mes chéris, d'être belles. Et pourvu que votre tendresse me reste, que m'apporte un cheveu blanc ou noir? Vous êtes ma beauté, ma richesse. Et il pleuvait des baisers. Henriette et Louise éprouvaient pour leur mère une tendresse profonde. Elles se ressemblaient en cela d'une façon parfaite. Mais là s'arrêtait la ressemblance. Il était aisé de comprendre qu'elles n'étaient sœurs que de nom. À 14 ans, Henriette avait déjà la taille élevée de sa mère, ses yeux et ses cheveux noirs. Ses traits, comme ceux de Thérèse, avaient cela de remarquable qu'ils exprimaient à la fois une nature douce, pensive, mais résolue et forte. Louise, plus jeune que sa sœur de 3 ou 4 mois, ne différait pas moins d'Henriette par les traits et l'expression de la physionomie que par ses goûts et par son caractère. Ses cheveux, d'une teinte dorée, ses yeux, sa bouche, la ravissante symétrie des jolies dents qu'elle laissait apercevoir dans un gracieux sourire, la fraîcheur de son teint, dont un coloris délicat relevait la blancheur, sa taille souple et frêle, ses petits pieds, ses mains mignonnes, tout enfin semblait révéler la noblesse de son origine. Elle était d'une nature expansive dont l'enjouement se mêlait aux occupations de chaque jour, qu'elle égayait en chantant de sa voix claire et douce, tantôt des hymnes religieuses, tantôt des chansons du pays. Une entre autres. Ô ma tendre Musette, console ma douleur. Parle-moi de Lisette, ce nom fait mon bonheur. Je la revois plus belle tous les jours. Je me plains toujours d'elle et je l'aime toujours. Elle la répétait souvent, cette chanson légère, qu'elle devait, à quelque temps de là, redire d'une voix brisée, au milieu de sanglots et de larmes, et succombant sous le poids des plus déchirantes souffrances. Louise était devenue une si habile ouvrière en dentelle que les marchands de la ville l'accablaient de commandes. Rien n'était plus charmant que de voir les petites mains blanches de la jeune fille courir sur son métier, dont elle faisait passer les aiguilles entre ses petits doigts aux ongles roses avec une telle vitesse qu'on avait peine à comprendre qu'il pût en résulter un ouvrage aussi régulier, aussi délicat. Enfin, tout allait pour le mieux dans la famille Gérard, et nos deux sœurs étaient maintenant de grandes et charmantes jeunes filles. Mais le beau temps, hélas, n'est pas de longue durée. Vers la fin de l'automne, Thérèse, par un soleil superbe, emmena ses enfants faire une promenade. L'air était d'une douceur exceptionnelle pour la saison. l'été de la Saint-Martin. Les grandes prairies fauchées en septembre avaient repris leur teinte verte et les dernières fleurs de l'année brillaient de leur dernier éclat. Henriette avait cueilli un gros bouquet de marguerites dont elle offrit la moitié à sa sœur. « Tiens, prends !» lui disait-elle. « Où sont-elles, tes marguerites? Je ne les vois pas. Ben »« Là, devant toi !» répondit Henriette étonnée. Louise, debout, regardait autour d'elle et ne bougeait pas. Thérèse s'était rapprochée. « Eh bien, qu'attends-tu » disait-elle. Louise semblait chercher avec les mains. Elle était pâle et tremblante. « Qu'est-ce que tu as ? » lui dit sa mère. « Rien !» se hâta-t-elle de répondre. « Ce n'est rien. Un éblouissement. Le grand air, le soleil, peut-être. »« C'est bien possible, » reprit Thérèse. « Il est si chaud, ce bon soleil. Tiens, mets cela sur ta tête. » Elle lui donna une voilette qu'elle portait sur son bras. Louise avait mis la voilette et marchait à côté de sa mère. Elle était silencieuse et pâle. On avait, depuis un instant, quitté la grande route pour prendre un chemin bordé de pommiers chargés de fruits et qui conduisait à une source où l'on comptait se rafraîchir et se reposer un peu. Soudain, Louise poussa un grand cri. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» dit Thérèse. « Oh, peu de choses. Je me suis cognée à une branche que je n'avais pas vue. Où donc avais-tu les yeux étourdis ?»« Je ne sais pas. C'était comme tout à l'heure, un vertige qui m'a pris. » Henriette était accourue et jetant ses fleurs à terre. « Voyez, elle a le front tout en sang, ma pauvre sœur !» disait-elle en la faisant asseoir sur l'herbe. « Elle aurait pu se tuer !» ajoutait Thérèse, qui était toute tremblante. « Rentrons, assez de promenade pour aujourd'hui !» Le coup que Louise s'était donné, bien qu'il n'eût rien de grave, avait dû lui causer une douleur assez vive. Mais cette douleur n'était pas la seule cause du cri jeté par la pauvre fille, comme on le verra plus tard. Depuis ce jour, elle n'eut plus qu'une idée, rassurer sa mère et sa sœur en s'efforçant de se calmer elle-même et de reprendre sa gaieté habituelle. Assise devant son métier à dentelle, la courageuse enfant recommença le jeu de ses petites mains et des aiguilles comme si rien n'était arrivé. Mais la gaieté fiévreuse qu'elle affectait disparut bientôt tout à fait. En quelques jours, il s'était fait dans son caractère, dans sa physionomie, un changement étrange. Le sourire avait abandonné ses lèvres. Ses yeux, si vifs et si doux, si pleins de vie et de santé, étaient devenus sombres et tristes. Plus de chansons, plus de ces bons éclats de rire qui répandaient autour d'elle la joie et le bonheur. Travaillant sans cesse, ses mains couraient sur son métier, mais sa pensée était ailleurs. Et quand sa mère ou sa sœur, toutes deux inquiètes d'un changement si subit, lui adressaient la parole, un frisson lui passait dans le cœur et semblait la rappeler à la réalité. Elle faisait alors tout son possible pour redevenir la Louise d'autrefois, mais elle n'y réussissait guère. Un soir, la mère et les deux sœurs travaillaient à la lueur d'une lampe. Thérèse tricotait et Henriette, debout devant la table, achevait une robe d'hiver. Elle regardait Louise bien plus que son ouvrage et, de la main, elle la montrait à sa mère qui, elle aussi, ne perdait pas de vue la jeune fille, dont les traits altérés, dont le visage pâli et les paupières rougies par les larmes, décelait une profonde douleur. Après un long silence, Thérèse se leva et, prenant un bougeoir sur la cheminée, « Mes enfants, » dit-elle, « assez de travail pour aujourd'hui. Il est temps de remonter dans votre chambre. Entends-tu ce que je dis, Louise ?»« Oui, mère, je n'en ai plus que pour un quart d'heure. »« Oh, je les connais, tes quarts d'heure. Ils durent jusqu'à minuit. »« Allons, en voilà assez. » Et en disant ces mots, Thérèse avait éteint la lampe. « Oh, mère, qu'est-ce que tu fais ?»« Je te force à m'obéir, vilaine enfant. »« Eh bien, je finirai sans ma lampe. À présent, je travaille très bien les yeux fermés. »«
Les yeux fermés ?»«
Oui, oui, je m'y suis faite depuis quelque temps. On dit que ça ménage la vue. »« Voyez, vous avez éteint ma lampe. Mes doigts n'arrêtent pas de marcher. »«
C'est pourtant vrai, » dit Thérèse en se penchant vers le métier.
« C'est une affaire d'habitude, voilà tout. »« C'est convenu, mère. » Tu me donnes mon quart d'heure et nous irons t'embrasser en montant. »
Dès que Thérèse fut partie, Louise laissa tomber ses bras. Elle paraissait anéantie. Henriette, qui ne l'avait pas quittée du regard, s'approcha rapidement et lui prenant la main.
« Louise, » dit-elle, « tu souffres. »«
Non, non, ce n'est rien. »«
Oh, voilà 3 semaines que tu me fais la même réponse quand je te demande la cause du changement qui s'est opéré en toi depuis notre dernière promenade, depuis le coup que tu t'es donné à cette maudite branche. Oh, ne parle pas de ça, je t'en supplie. Je n'y pense que trop souvent. Ne m'en parle jamais. Elle avait jeté ses bras au cou d'Henriette et elle pleurait sur son épaule. Et quand je te dis que tu souffres, tu me réponds, ce n'est rien. Et cette pâleur, cette tristesse qui ne font qu'augmenter chaque jour, ces longues heures que tu passes auprès de nous sans nous adresser une parole, cette fièvre qui te brûle les mains, et ces larmes que tu verses, tout cela n'est rien. Eh bien, moi, je te dis que tu nous caches quelque chose, une souffrance, un chagrin que je veux connaître. Je comprends que tu t'efforces de n'en rien laisser voir à notre mère, qui a besoin de si grands ménagements, et à ta place, peut-être, ferais-je de même. Mais que tu hésites à m'ouvrir ton cœur, voilà ce que je ne puis admettre. Ou bien c'est que je n'ai plus ta confiance, c'est que tu ne m'aimes plus. Oh, mon Henriette, je t'aime, comme j'aime notre mère, plus que tout au monde, plus que la vie. Alors qu'attends-tu, méchante sœur? Parle, dis-moi ce qui te fait souffrir, dis-le-moi. Je le veux, je l'exige. Eh bien, apprends-le donc, ce secret qui remplit mon âme de désespoir et de terreur. Henriette, je sens que je deviens aveugle. Aveugle ! S'écria Henriette d'une voix déchirante. Aveugle ! Répéta d'une voix brisée la malheureuse Thérèse qui venait de pousser la porte et qui restait sur le seuil, pâle et défaillante. Elle nous écoutait, dit Henriette. Elle m'a entendue, s'écria Louise retombant sur sa chaise et cachant sa tête dans ses mains. Aveugle ! Répétait Thérèse qui s'avançait soutenue par Henriette. Oh non, non, ce n'est pas possible, Louise, mon enfant, dis-moi que je rêve, que j'ai mal entendu. Dis-moi que tu ne l'as pas prononcé, ce mot affreux qui me glace le cœur. Aveugle, aveugle. Louise s'était jetée à ses genoux et lui baisait les mains. Mère, pardonne-moi le mal que je t'ai fait.
Te pardonner? Mais s'il y a une coupable ici, c'est moi, moi seule. Est-ce qu'une mère ne devrait pas tout prévoir, tout deviner, tout craindre quand il s'agit de ses enfants? Est-ce que je n'aurais pas dû t'empêcher de travailler comme tu l'as fait? C'est ça qui t'a perdu la vue, ma pauvre chère Louise. Et tu me demandes pardon. Calme-toi, mère, je t'en conjure. Le mal n'est peut-être pas aussi grand que tu le crois et que je l'ai cru moi-même. Je te vois encore, mère. Je vous vois toutes les deux. Et si j'étais aveugle, mes yeux ne verraient pas dans les vôtres ces bonnes et chères larmes dont je suis la cause. Louise a raison, mère. Ce qu'elle éprouve, ce qui l'a si fort inquiétée depuis quelque temps, n'est sans doute qu'un mal passager, dont elle guérira avec du repos et des soins qui ne lui manqueront pas. Embrassons-nous et calme-toi. Mais comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce que tu ressens? Et quand cet affreux mal a-t-il commencé?
Je ne saurais le dire au juste. Depuis longtemps, déjà, au moment où je m'y attendais le moins, ma vue se troublait, comme si un nuage m'eût passé devant les yeux. Alors, je distinguais à peine les objets, les personnes qui étaient près de moi. Mais cela durait peu, quelques minutes à peine, et puis ma vue redevenait ce qu'elle était auparavant. Un jour pourtant, il faisait un soleil magnifique. Nous étions dans les champs, en train de cueillir des marguerites. Tout à coup, je m'arrêtais. Il me semblait que la nuit était venue. Oui, oui, je me souviens, ce vertige. Il avait peu duré, mais il m'avait fait peur, et devait bientôt revenir, car un instant après, en marchant derrière vous et à quelques pas seulement, je ne voyais plus que des ombres, si bien qu'en passant près d'un arbre. Ah, je comprends ce cri que tu as jeté. Je m'étais fait bien mal au front, mais je souffrais plus encore du coup que j'avais reçu dans le cœur. Aveugle, me disais-je, je deviens aveugle. Et tu ne nous en disais rien, et tu nous as laissés pendant 3 semaines dans cet état d'inquiétude et d'anxiété, ne sachant comment t'expliquer ce qui te rendait silencieuse et triste. Je n'osais pas vous en parler. Je craignais de vous causer trop de chagrin. Et puis j'espérais, chère mère, et j'espère encore que je ne suis pas condamnée à ne plus vous voir. Et nous aussi nous l'espérons, ma Louise, ma fille bien-aimée. Mais il doit y avoir quelque chose à faire, un traitement à suivre. Et dès demain, à la première heure, je te conduirai chez le médecin. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils ordonnent, je ne veux plus que tu travailles. Le lendemain, Madame Gérard conduisit Louise chez un praticien renommé. Lorsque Thérèse pénétra dans le cabinet du médecin, celui-ci était précisément plongé dans la lecture d'un ouvrage de D'Alembert où il était question des aveugles.
Après avoir regardé attentivement les yeux de la jeune fille, le docteur hocha tristement la tête. Madame Gérard surprit le mouvement, quelque imperceptible qu'il eût été, et en éprouva une douloureuse émotion.
« Eh bien, monsieur, » dit-elle à voix basse.
« Eh bien, madame, cette jeune personne n'est pas complètement... complètement... » Il appuya sur le mot. « Aveugle. Mais je vous le déclare, il n'y a pas de temps à perdre pour le traitement. »
Thérèse, toute tremblante d'émotion contenue, ne put que balbutier. « Lui rendrez-vous la vue, monsieur ?»«
Peut-être, » soupira le médecin. Et, s'apercevant de la tristesse qui se peignait sur le visage de son interlocutrice, il ajouta en manière de correctif.
« Probablement !»
Et pour changer de conversation, il fit subir à Louise un petit interrogatoire.
« Vous travaillez, n'est-ce pas, mon enfant » demanda-t-il, « bien que vous soyez privée de la vue, par moment. »«
Oh, monsieur le médecin !» interrompit Thérèse. « La chère amie travaille absolument comme si elle y voyait bien clair. »
Elle fait tout ce qu'elle veut de ses mains, monsieur. C'est même extraordinaire.
Mais pas le moins du monde, madame, répondit le praticien. Je savais cela. Tenez, ajouta-t-il en indiquant le volume qu'il avait posé sur la table pour recevoir sa jeune cliente. Dans cet ouvrage que je lisais tout à l'heure, d'Alembert, un illustre savant, madame, parle des aveugles qu'il a beaucoup observés.
Madame Gérard écoutait attentivement, espérant apprendre quelque chose qui la rassurerait un peu sur l'état de sa chère Louise.
Le médecin continua. D'Alembert dit « Il est évident que le sens de la vue, étant fort propre à nous distraire par la quantité d'objets qu'il nous présente à la fois, ceux qui sont privés de ce sens doivent naturellement faire plus d'attention aux objets qui tombent sous les autres sens. C'est principalement à cette cause que l'on doit attribuer la finesse du toucher et de l'ouïe qu'on observe chez certains aveugles. » Et reposant le livre. Voilà pourquoi, madame, cette jeune personne est si adroite de ses mains. La nature a voulu la dédommager de la privation de la vue.
Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas, monsieur, cette cécité, fit madame Gérard, en adressant au médecin un regard où se lisait l'angoisse.
Nous ferons notre possible, madame. Nous épuiserons toutes les ressources de la science, et Dieu nous aidera sans doute.
Puis, revenant à l'interrogatoire interrompu. Je gagerai, mon enfant, fit-il en prenant doucement une des mains de Louise. Je gagerai que sans y voir, vous vous guidez admirablement.
Oh oui, monsieur, s'empressa de répondre madame Gérard.
Et mieux que ça, elle reconnaît les personnes, celles qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre parler souvent, au son de la voix. Et elle vous dira, rien qu'au toucher, si les objets qu'on lui présente sont de bonne ou de mauvaise qualité.
Je savais tout cela, chère madame, dit le docteur. Je trouve toutes ces observations consignées dans cet admirable ouvrage de D'Alembert.
Tout en parlant, il avait ouvert le livre à une page marquée d'avance, et il se mit à lire, à haute voix, le passage suivant. L'aveugle a la mémoire des sens à un degré surprenant. La diversité des voix le frappe autant que celle que nous observons dans les visages, en sorte que même dans une assemblée tumultueuse, il suffit qu'une personne lui dise bonjour pour qu'il la reconnaisse. Il apprécie à merveille par le toucher, la nature, la beauté, le poli des objets, et ses doigts acquièrent une telle habileté qu'il n'est pas rare de le voir exécuter, soit au tour, soit à l'aiguille, des travaux d'une finesse et d'une régularité vraiment extraordinaires.
« Oh, comme c'est vrai, monsieur !» s'exclama madame Gérard. « Ma Louise est une véritable fée !»
La consultation terminée, Thérèse se retira le cœur plus satisfait. Elle avait maintenant l'espoir que sa chère fille d'adoption recouvrerait la vue un jour, bientôt peut-être. Malheureusement, les soins du médecin spécialiste demeurèrent inefficaces. Rien ne put rendre la vue aux beaux yeux de l'orpheline. Au bout de quelques semaines, il fallut bien, hélas, se rendre à l'évidence. Louise était complètement aveugle. Les natures fines et délicates ne sont pas assurément les moins courageuses, et notre jeune amie en donna une preuve vraiment touchante. Bien loin de se laisser abattre, elle accepta le fait accompli avec une résignation, un calme qui surprenait tout le monde. « Je ne suis pas malheureuse, » disait-elle. « Rien n'est changé. Ma vie est la même. Je suis avec ma mère, ma sœur. Et si je ne les vois plus avec mes yeux, je les vois avec mon cœur,
où leur image est gravée et ne s'effacera jamais. Et vraiment, quand on la voyait aller et venir dans la maison, s'occuper d'une foule de détails avec tant d'adresse et de grâce, quand on la regardait assise devant son métier qu'elle avait absolument voulu reprendre, quand on l'entendait causer, rire et même chanter comme autrefois, on se demandait si elle n'avait pas raison de dire que rien n'était changé. Rien pour elle peut-être, mais pour les autres. Henriette était profondément affligée du malheur de sa Louise. Elle comprenait qu'il était de son devoir de le lui adoucir à force de soins et d'affection. Mais hélas, elle avait aussi une autre tâche à remplir, et plus pénible encore. Elle devait soigner leur mère. Les secousses réitérées qu'elle venait de subir avaient ébranlé l'équilibre de son âme et de son corps. Les crises du cœur dont elle avait toujours souffert, mais à de grands intervalles, étaient maintenant d'une fréquence et d'une force qui effrayaient le docteur lui-même. Il prévoyait une issue fatale et prochaine. Devait-il prévenir les enfants? N'était-ce pas les condamner à une souffrance anticipée dont la mère ne manquerait pas de s'apercevoir, ce qui rendrait la situation plus douloureuse encore? Ne sachant trop à quelle partie s'arrêter, le docteur se décida à en causer avec la mère Martin, la vieille amie de la famille. Un matin, donc, il entra chez elle, et il lui avait à peine expliqué le motif de sa visite, lorsque tout à coup, on entendit frapper à la porte, et une minute après, Louise, effarée, pénétrait dans la maison en appelant de toutes ses forces. « Madame Martin, Madame Martin !»« Me voilà, ma petite Louise, qui est-il donc ?»« Ah, venez vite, maman est au plus mal !»« Une crise affreuse, elle est tombée sans connaissance. Hâtez-vous, moi je cours chez le docteur. » « Inutile, mon enfant, je suis là, prête à vous suivre, » répondit celui-ci. « Ne perdons pas de temps. Prenez ma main et venez. »« Ah, vous la sauverez, n'est-ce pas, monsieur ? Dites-moi que vous la sauverez. » En entrant dans la chambre, le docteur comprit tout de suite que ses prévisions allaient être réalisées. Thérèse était mourante. La supérieure de la Sainte Enfance lui tenait une main. Henriette, agenouillée, couvrait l'autre de baisers et de larmes. En voyant Louise entrer et accourir auprès d'elle, la pauvre femme eut comme un éclair de joie, et, faisant un effort suprême, « Henriette, » dit-elle, « je te la confie. » Puis, elle étendit ses deux mains sur la tête de ses enfants, leva les yeux au ciel, et un nom s'échappa de ses lèvres dans un sourire. « Michel, Michel. » Ce furent ses dernières paroles et son dernier sourire. Henriette et Louise venaient de perdre ce qu'elles avaient de plus précieux et de plus cher, ce trésor inépuisable de tendresse, d'abnégation et de dévouement qu'on appelle une mère. Les deux sœurs étaient maintenant deux orphelines.